Good evening to you all.
Bonsoir à tous.
It's lovely to be here to see a Bible believing church here in Paris.
C'est encourageant de voir une église qui croit en la Bible à Paris.
We've been doing mission work in England for 19 years.
Ça fait 19 ans qu'on travaille, on annonce l'évangile en Angleterre.
We come from a little town in Georgia called Resaca.
On vient d'une petite ville de Géorgie aux États-Unis qui s'appelle Resaca.
And we thank the Lord for all what God is doing across Europe for his kingdom.
Et nous louons le Seigneur pour ce qu'il fait en Europe pour son royaume.
A scripture verse that God spoke to me about many years ago about the need around Europe.
Il y a de nombreuses années, le Seigneur m'a parlé sur les besoins de l'évangile en Europe.
In Acts 26:18.
En Actes 26, 18.
It's easy for you just to read it.
Je vais le lire en français. Actes 26, 18. Afin que, c'est l'appel de, c'est Paul qui raconte son témoignage, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
This has been our burden and our goal for ministry for these many years around England and other parts of the world.
Et ces choses sont sur notre cœur, c'est ce qui fait notre ministère en Angleterre et dans d'autres parties du monde.
Many people's eyes have been blinded towards darkness.
Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été aveuglés par les ténèbres.
And as Christians, we want to see their eyes open unto the gospel.
Et en tant que chrétiens, nous voulons que leurs yeux s'ouvrent sur les beautés de l'évangile.
When we first came to England,
quand on est arrivé en Angleterre,
we worked with a church outside of Oxford.
On travaillait dans une église dans la banlieue d'Oxford.
And that was very different for me as coming to England. I came from the very south, so. If you're going to understand a hillbilly.
Voilà, moi j'étais un gars de la campagne du sud, vraiment le sud des États-Unis, et de me retrouver en Angleterre à Oxford, c'était un grand changement.
To people that were very posh and educated.
Les gens étaient très éduqués, très, n'est-ce pas, voilà.
And the Lord allowed us to help a small church there while we first came into England.
Et donc on a pu aider une petite église là.
Then the Lord led us to go to Leicester, England.
Après, on est allé à Leicester.
And we planted a church there.
Où on a planté une église.
And then the Lord led us to go to another town about 9 years later in Kettering, England.
Et donc, 9 ans plus tard, on est allé dans une autre ville.
Kettering.
Kettering. Kettering.
Which is the home of William Carey.
Ah, c'est la ville natale de William Carey.
Which is, of course, the father of modern-day missions, we know of it.
Père des missions modernes qui est allé en Inde.
Sad to say, very, very few mission work is being done in England.
Et en fait, il y a très peu de travail missionnaire en Angleterre.
Just much as all around Europe is such a great need.
Et on voit dans toute l'Europe ce grand besoin d'évangélisation.
In England, I think for independent Baptist churches, we have about 50 churches across the United Kingdom.
Dans toute l'Angleterre, il y a environ seulement 50 églises bibliques baptistes indépendantes comme la nôtre.
And it thrills us to see a church going here in Paris for God's glory.
Et c'est une bénédiction de voir une église voilà biblique baptiste ici à Paris.
And we're looking forward to hearing more good reports from this church.
Et nous espérons entendre d'autres bonnes nouvelles de cette église.
And pray for us as we continue to minister in England.
Voilà, priez pour nous dans notre ministère en Angleterre.
We have enjoyed our time in Paris.
On a beaucoup apprécié notre temps à Paris.
My daughter is fixing to turn 16.
Ma fille vient juste d'avoir 16 ans. Ah, va avoir 16 ans.
And one of her things she wanted to do, she wanted to go to Paris for her 16th birthday.
Pour mes 16 ans, je veux aller à Paris.
And so we've come a few months early because much cheaper right now.
Voilà, on est venu avant son anniversaire parce que c'est moins cher à cette saison.
But we thoroughly enjoyed our time.
Et vraiment, on se régale ici à Paris.
And we appreciate your prayers as we'll go back to Corby and we'll tell our church about what God is doing here.
Yeah, thank you, and we'll pray for your ministry.
Yes, thank you.
Stay in touch.
Yes, sir. Thank you. God bless you.
Thank you, Pastor Tom. Mike, si tu veux. Il y a encore un chant, c'est ça? Et puis le message.
Yes. Mais ça nous fait plaisir de partager la parole de Dieu et de l'ouvrir encore et de se retrouver dans l'épître aux Philippiens. C'est, comme je vous l'ai déjà dit, l'épître aux Philippiens est écrite à cause d'un problème. C'est-à-dire que dans l'église des Philippiens, il y avait deux dames qui se disputaient. Alors la raison ne nous est pas connue, et puis elle ne valait peut-être pas la peine qu'on la connaisse et que Paul en écrive. Mais le fait est qu'il y avait une querelle. Alors c'était deux femmes qui avaient servi le Seigneur avec Paul, et que Paul s'en souvient, et donc il leur rend le témoignage qu'elles ont servi Christ et l'Évangile pendant des années. Et puis il était arrivé quelque chose, un grave problème, sans doute, voilà, une querelle, un esprit de dispute qui s'est mis dans l'Église. Et puis Paul fait même un reproche à son collègue, hein, fidèle collègue, je te résous le problème parce qu'il y a un problème. Donc l'épître aux Philippiens, comme beaucoup de gens ont dit, c'est l'épître de la joie. Mais parce que vous trouvez à plusieurs reprises, réjouissez-vous sans cesse, je le répète, réjouissez-vous, etc. Mais en fait, ce n'est pas Paul n'a pas écrit une épître pour nous parler de la joie. Il a écrit une épître pour nous parler d'une dispute, d'une querelle. C'est ce qui nous prive de la joie, c'est la querelle, c'est le péché, c'est la désobéissance. Alors ce qui était grave dans cette église, c'est que justement, ils avaient toléré, ils étaient spectateurs de quelque chose qui était dans l'église, d'une ambiance de querelle, et peut-être même il y avait une partie de l'église qui épousait le parti d'une des dames et l'autre partie de l'église qui épousait l'autre partie. Peut-être même il y avait une partie qui jugeait et qui condamnait les deux autres. Et vous avez là un ensemble de problèmes qui font que la joie est volée. On nous a volé notre joie, on nous a pris ce qui était essentiel. Christ nous a donné la joie, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie. Alors le fruit de l'esprit était limité pour les Philippiens parce qu'ils manquaient de joie à cause justement de cette querelle et qui était, le pasteur ne remplissait pas son rôle et les personnes, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui serve d'arbitre, eh bien prenaient parti pour l'un ou pour l'autre et épousaient la querelle. Alors, c'est pour cela que Paul ne nous mentionne même pas le sujet. La raison pour laquelle ne nous est pas donnée, et c'est très bien comme cela. Parce que le problème, c'était justement d'avoir un esprit de querelle. Donc, je reviens un petit peu dans nos précédentes méditations. C'est que Paul présente ses vœux à l'Église et il parle de Jésus-Christ. L'argument qu'il amène, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et il montre combien Jésus-Christ, eh bien, est le plus important. Ce qui est important, dès que l'on perd de vue Jésus-Christ, on a perdu l'essentiel. Dès qu'on regarde ses propres intérêts, ses bonnes raisons, eh bien, on a perdu. Alors qu'il faut regarder à Jésus-Christ. Il faut toujours avoir en vue Jésus-Christ. Toujours mettre Jésus-Christ en premier. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous avons lu les passages bibliques, eh bien, j'ai souligné le fait que Paul parle de Jésus-Christ et de l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'auteur de notre salut. Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés. Jésus-Christ qui subit la contradiction, qui subit l'opposition et qui l'accepte pour porter nos péchés et qui subit l'injustice pour que nous puissions avoir la grâce de l'évangile et du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Et c'est cela qui était le plus important. C'était que l'évangile soit annoncé. Et même Paul dit « Je fais tout à cause de l'évangile ». Et même il est persécuté. Il y a les faux frères Et lui-même, sans dire, je vous cite, je vous apporte un exemple pour vous convaincre que moi aussi, je sais résoudre ces problèmes-là, eh bien, il dit, je subis des désavantages à cause des faux frères. Il y a des faux frères qui annonçaient l'évangile dans un esprit de dispute, de querelle, pour que Paul soit persécuté. Si bien que Paul en avait de graves problèmes et la pression, non seulement il y avait les Romains qui l'avaient mis devant le tribunal, il était devant le tribunal de César, eh bien, il avait les faux frères qui, comment dire, en arrière-plan, eh bien, manigançaient pour que les peines de Paul soient plus sévères, plus lourdes. Donc, Paul dit, de toute façon, il dit, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. L'évangile est annoncé. C'est quelque chose de merveilleux, c'est formidable, que ce soit pour l'apparence, que ce soit dans un esprit de querelle, ils annoncent quand même l'évangile. Alors, ce qui est pour Paul la suprême grâce, eh bien, c'est d'être un prédicateur de l'évangile, de pouvoir annoncer le salut qui est en Jésus-Christ. Comment nous avons été sauvés, comment nous sommes réconciliés avec Dieu, comment le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nos péchés soient effacés. Il dit, mais je ne peux que me réjouir de ce que l'évangile est quand même annoncé. Et alors, c'est sa plus grande, hein, c'est le cri de Paul, il dit, c'est le 1:21, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il dit, il préférerait être avec Christ pour l'éternité plutôt que de végéter encore sur la terre. Mais il dit, mais quand même, pour vous, pour l'œuvre, pour l'évangile, je dois encore rester. Mais quand même, j'ai une forte pression qui me pousse vers le ciel et qui me fait souhaiter avec ardeur d'être un jour dans la présence de Dieu pour l'éternité et d'être avec Christ réuni pour toujours. Vous voyez là, tout cet élan, toute cette pression qu'il y a derrière pour dire, mais vous savez, il y a quelque chose de merveilleux, de plus grand et de plus élevé que nos petites raisons et nos petits, ceci et cela, notre sensibilité, il y a Christ. Et Christ est le plus important. Et c'est au chapitre 2 qu'il va en parler, donc ce n'est pas cette fois-ci, mais aujourd'hui, c'est le verset 27, hein, verset 27 jusqu'à la fin. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Car, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul leur dit, faites tout à cause de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est la bonne nouvelle de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est l'évangile, c'est Dieu qui regarde des pécheurs perdus dans leur péché, des rebelles, des ennemis, des gens qui s'élèvent contre lui, des blasphémateurs, et Dieu use de miséricorde envers eux et leur offre le plus grand de tous les dons qui aient jamais existé, son propre Fils. Voilà ce que c'est que l'évangile. Il dit, mais vous êtes en train de vous disputer alors qu'il y a l'évangile qui vous démontre que Dieu use de grâce et de miséricorde envers vous. Faites tout à cause de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile est la norme de notre vie chrétienne. C'est la hauteur de notre vie chrétienne. C'est dans notre vie chrétienne, il y a l'évangile. Nous sommes sauvés par la grâce, par un effet de la miséricorde infinie de Dieu. Et nous sommes débiteurs de Dieu. Nous avons une dette vis-à-vis de Dieu, une dette que nous ne pourrons jamais payer. La seule réponse à la dette que nous avons, c'est de donner nos vies. Si l'un, lui, s'est donné pour nous, à plus forte raison, nous, nous devons donner notre vie pour lui. Si c'est Paul qui le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, j'aime beaucoup ce verset, hein, je vous le cite parce que c'est... C'est le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ça, c'est la gloire de l'Évangile. C'est-à-dire que Dieu a triomphé. Il y a la plus grande perte qu'il y ait eu pour l'humanité, c'est le péché. Dieu avait créé l'être humain d'une manière... c'était très bon, c'était parfait. Et puis le péché est entré dans le monde. Et le péché a tout gâché, tout raté. Et vous vous promenez dans la rue, et vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez l'égoïsme, vous voyez la méchanceté, vous entendez des gens se quereller. Vous avez même votre porte fermée, et pas plus tard qu'hier soir, il y avait deux personnes qui se querellaient dans le couloir. À 1h du matin, bien entendu, parce qu'il faut que tout le monde l'entende. Donc, ils ne pouvaient pas être en paix. L'un avait de l'eau qui coulait chez l'autre, et voilà. Et puis, c'était, je ne vais pas vous raconter toutes leurs querelles. Mais il y avait, je dis le péché. Le péché est arrivé dans le monde. Je pourrais m'entendre avec mon voisin. C'est un brave type. C'est quelqu'un de vraiment formidable. Mais malgré tout, il y a le péché, et il y a ceci, et il y a ça, et il y a telle autre chose. Et ça fait que les barrières s'élèvent, et elles deviennent impossibles à baisser, à réduire à rien. Mais l'Évangile est arrivé. L'Évangile, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu qui ne se souvient pas de nos péchés, qui passe par-dessus nos péchés, qui vient à notre secours, par le moyen du sang de Jésus-Christ. Et si bien que cette personne, mon voisin, qui est impossible, hein, je vous le dis, hein, bon, lui peut avancer la même chose que moi, de moi, mais voilà. Et non, je n'ai pas de voisin impossible. Mais cette personne-là, eh bien, peut être mon frère en Christ. Et alors, tout est changé. Je me rappelle, quand j'étais étudiant en institut biblique, j'ai souvent raconté parce que j'aime bien celle-là, c'était un étudiant malgache. Son père avait fondé les églises de baptistes à Madagascar. Donc c'était le fondateur, celui qui avait commencé les églises baptistes à Madagascar. Donc c'était un personnage très important. Et j'ai eu le privilège d'avoir fait mes études avec lui. Il était en troisième année, moi j'étais en première année. Et alors Drin, il s'appelait Andriana Ravalona Rabenja. On l'appelait Drin. C'était plus facile. Et alors, Drin, on ne pouvait rien lui dire. Rien. Il se mettait en colère tout de suite. Si on lui disait, Drin, tu ne peux pas me remplacer pour la vaisselle, ce n'est pas qu'il disait non, c'est qu'il était en colère. Tout de suite, il s'irritait et il était agressif, hein, méchant même. Alors, si bien que, comme je suis quelqu'un d'assez paisible, il vivait sa vie de son côté, moi je vivais ma vie de la mienne, et il n'y avait pas beaucoup de contact entre les deux. Et puis un jour, c'était au cours d'un culte de chapelle, en milieu de matinée, un prédicateur est arrivé, et il a dit, écoutez, je vais vous... faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Mais je vais vous annoncer l'Évangile. Alors, vous êtes étudiant en théologie, vous devriez normalement être tous chrétiens. Mais le Saint-Esprit met sur mon cœur un message d'évangélisation et le fardeau est tellement pesant que je dois le faire. Alors, il a dit, je préfère obéir au Saint-Esprit que d'obéir à ma raison et à ma logique. Et alors, il a annoncé l'Évangile. Quand il a eu fini, Drin s'est levé et il pleurait. Et ce jour-là, Drin s'est converti. Ça a été le début d'un réveil, hein, parce que les uns après les autres, il y a eu des étudiants qui se sont levés, qui ont demandé pardon, qui ont confessé leur mis leur vie en règle. Ils étaient sauvés, mais ils avaient besoin de mettre leur vie en règle. Ça a été le commencement de quelque chose de très important à l'Institut biblique à cette époque-là. Mais Drin avait changé du tout au tout. Il était devenu un frère. On pouvait lui demander n'importe quoi. Il fallait faire attention de ne pas abuser. Parce qu'il rendait service pour tout le monde. Hein. Et vous lui demandiez de vous faire remplacer pour la vaisselle, mais vous aurez remplacé pour toutes les vaisselles. Il avait changé. C'était un frère en Christ. C'est l'évangile, c'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir une éducation chrétienne. Ça ne suffit pas. Il avait une éducation chrétienne par un père qui avait fondé les églises de Madagascar, donc qui s'y connaissait. Et il avait reçu l'éducation la plus parfaite qu'il pouvait recevoir. Mais il n'était pas sauvé. Le jour où il a été sauvé, il a été changé. Il est devenu une personne nouvelle. C'est l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Vous avez reçu l'évangile. Vous avez été sauvé. Conduisez-vous d'une manière qui corresponde à votre conversion, à votre salut. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous appelez Dieu votre Père. Et ce Père a donné son Fils pour que vous puissiez être sauvés et que vous puissiez être réconciliés avec lui-même. C'est pour cela que nous devons nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile de Christ. C'est l'Évangile de notre salut. C'est le Père lui-même qui nous a donné cet Évangile. Et c'est pour cela que nous mettons l'Évangile à une si grande hauteur. Ce n'est pas simplement une doctrine, c'est beaucoup plus qu'une doctrine. C'est le message de notre salut, c'est le message de l'espérance de l'humanité, et c'est le message de l'espérance que nous allons avoir dans le ciel. C'est l'Évangile qui nous a ouvert la porte du ciel, de la présence de Dieu pour l'éternité. Si nous n'avions pas eu l'Évangile, la porte de l'enfer nous était ouverte toute grande. Et je peux vous dire que la porte, elle est grande. Hein, et les multitudes qui s'y engouffrent, c'est inimaginable. Et ça vous serre le cœur. Mais nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen du sang de Jésus-Christ. Nous sommes lavés de nos péchés. C'est pour cela que nous devons vivre en considération de quelle manière nous avons été sauvés et comment nous avons été sauvés et par qui nous avons été sauvés et qui a prévu le moyen de notre salut. C'est le péché prend tellement de place dans notre vie. C'est si facile de se livrer au péché, de se livrer à ses mauvais penchants, de se livrer à ses mauvaises pensées, à ses mauvaises intentions, à ses ceci et cela. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous quelque chose. Mon péché à moi, qui me tente plus que les autres, ne vous tentera pas à vous et ne vous fera pas basculer. Et votre péché ne me fera pas basculer à moi. Mais malgré tout, eh bien, nous sommes sauvés par le même évangile. C'est la même espérance. C'est pour cela qu'il est dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ ». Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et c'est-à-dire que nos forces sont tellement facilement divisées, parce que là, dans cette situation, et je pense que c'est un peu comme dans l'église de Corinthe, où il y avait des clans, des partis. Là, il devait y avoir au moins deux partis, si c'est peut-être trois. Et il y avait donc, les forces vives de l'Église étaient divisées et l'Évangile en était diminué. Parce qu'il y avait non seulement une division des forces, mais le Saint-Esprit était attristé. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas agir au travers de l'Église pour un monde perdu. Alors, l'Évangile, eh bien, était rendu comme s'il n'existait pas, comme s'il était inutile, comme s'il avait perdu de sa force. Mais l'Évangile, Paul disait, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas d'autre solution. Et combien par notre négligence, par notre tiédeur, par notre pacte avec le péché, notre facilité à toutes sortes de choses, eh bien, on rend l'évangile inefficace dans nos vies et même dans la vie des autres. C'est pour cela que Paul dit et souligne bien que j'entends de dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, combattant ensemble, unis, complètement unis, affermis ensemble. Il y a un combat, il y a un ennemi. Et souvent, le problème des chrétiens, c'est qu'ils se sont trompés d'ennemi. C'est l'ennemi, ce n'est même pas les gens du monde, c'est Satan. C'est l'esprit de séduction dans ce monde qui essaie de tromper les gens et de les détourner de l'évangile et de rendre l'évangile le disqualifier dans la bouche des chrétiens. Si bien que nous sommes ennemis les uns des autres, il y a des tensions les uns avec les autres. On a nos petites revendications, on a nos sensibilités, on a notre mauvaise humeur, on a nos ceci et nos cela. Et comme nous ne sommes pas d'un même cœur, d'une même âme, d'une même foi pour annoncer l'évangile, eh bien l'évangile en est diminué. Et je vais vous dire quelque chose. Quand il y a une division, disons une division en deux, vous ne divisez pas la puissance de l'évangile en deux. Vous avez beaucoup moins que ça. C'est-à-dire que vous n'avez presque plus rien. Presque plus de puissance pour annoncer l'évangile. Parce que ce n'est pas d'un même cœur, d'une même âme, d'un même désir, d'une même volonté. Imaginez une église. Oh, je ne dis pas une église d'un million de personnes, hein, ou de 1000 personnes, ou de, mais une église de 100 personnes. J'en connais une à Paris, une église à peu près 100 personnes. Hein. C'est cette église parfaitement unie dans la prière, dans le zèle pour l'évangile, dans l'amour fraternel. Je peux vous dire que si c'était le cas, comme Paul le dit ici, ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, eh bien, il y aurait quelque chose qui se passerait. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes des francs-tireurs. Chacun tire dans son coin, chacun fait son petit truc, et il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de recherche de travail ensemble, de fusionner nos forces. Et même quand quelqu'un essaye de le faire, eh bien on dit « oui, mais tu te rends compte comment il le fait ?» Mais regarde, et puis on n'est pas convaincu de la méthode, on condamne la méthode, on condamne ceci, on condamne ça, on n'est pas d'accord, on est susceptible. Je peux vous dire, c'est le drame de l'Église. Ça a toujours été ce genre de choses. Parce que l'on ne se conduit pas d'une manière digne de l'Évangile. L'Évangile, nous n'avons pas sondé ce qu'est l'Évangile. Nous n'avons pas mesuré la grandeur de l'Évangile. Nous n'avons pas compris, nous le savons, mais nous le savons intellectuellement, mais pas réellement. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a aucune autre possibilité d'être sauvé que par l'Évangile. On n'est pas sauvé par une religion, on est sauvé par l'Évangile. L'Évangile, c'est le message de notre salut. Jésus-Christ qui a payé pour que nos péchés soient effacés. C'est le drame, vous savez. Oh, je peux vous dire, faites taire vos susceptibilités, vos rancunes, vos petits trucs et tout ça. Vous avez raison. Bon, il n'y a pas de problème, vous avez raison. Mais là où vous avez tort, c'est de persévérer si vous savez que quelque chose est mauvais. Et je peux me condamner moi-même. Parce que combien de fois je me laisse aller à ceci, à cela. Et en fait, je diminue l'Évangile, je diminue sa puissance, parce que je tolère des choses dans ma vie qui ne devraient pas être tolérées. Je ne me conduis pas toujours d'une manière digne de l'Évangile de Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quelque chose, vous savez. Et puis, Paul va plus loin. Il leur dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition et pour vous de salut. Alors il passe à autre chose. C'est-à-dire que dans l'Église, il y a eu des conflits. Paul en a parlé, c'est bien. Maintenant, il y a un conflit qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et non seulement elles ne sont pas d'accord, mais elles nous combattent. Et elles sont même vindicatives. Elles sont même en guerre contre nous. Et il y a une stratégie de guerre contre l'évangile. Il y a les médias qui parlent contre l'évangile. Il y a des films qui, soi-disant d'Apocalypse, là il y en a un que je passe, sort du métro, Pasteur, là, et je vois sur Andrea, bon j'imagine c'est la faille de Sant'Andrea en Californie, et qu'il y a quelque chose, ils ont trouvé une nouvelle catastrophe, donc une nouvelle apocalypse, et en fait c'est toujours l'apocalypse, hein. Il faut toujours qu'il y ait une catastrophe, et ça fait vendre des places de cinéma, et ça fait fonctionner le système. Mais je n'ai aucune pitié pour ce genre de choses, hein. Mais en fait, c'est pour banaliser la catastrophe. Mais je peux vous dire, le monde est mûr pour l'apocalypse. Un jour, ce monde va sombrer dans l'apocalypse. Parce que le péché prend de telles proportions. Je peux vous dire qu'à côté de Paris, Sodome et Gomorre, c'était des petits saints. C'était des gens sans aucune envergure. Il y a une volonté, il y a quelque chose. Je vous dis, il y a un jugement qui se prépare. Et c'est ce que Paul dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Vous ne vous laissez pas, ne vous laissez pas effrayer. Il y a des multitudes de choses, on est contre. Ils sont contre notre manière de voir, notre manière de penser, nos prises de position. On passe pour des gens un peu demeurés. Pour eux, maintenant, il n'y a plus de morale. Eh bien, nous, on est un peu trop. On est intolérants. Voilà, c'est cela qu'il faut dire, hein. Notre intolérance. Mais comme disait quelqu'un, c'est l'intolérance des tolérants. Plus on est tolérant, plus on est intolérant. Parce que avec les intolérants, c'est comme ça. Donc les gens qui la ville la plus tolérante du monde. Vous savez quelle était la ville la plus tolérante du monde? C'est Rome. Rome, tous les cultes étaient représentés. Il y avait un temple à tous les dieux, le Panthéon. Et c'est Rome qui a persécuté les chrétiens. Parce que les chrétiens disaient qu'il n'y a qu'un Dieu, Jésus-Christ, qui est le Sauveur. Un seul Sauveur. Les autres religions n'ont qu'une valeur. Et alors, c'est au nom de la tolérance que les chrétiens ont été persécutés. C'est comme cela. Et c'est dans un monde tolérant que les gens comme nous, qui disent non, il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Ça ne se fait pas. Si vous agissez de cette manière-là, etc., je n'entre pas dans les détails, eh bien, il y a des jugements. Et alors, on nous regarde, excusez-moi, de travers. Et on nous dit, vous dites des choses et vous agissez mal. Parce que vous n'êtes pas assez rempli d'amour. Vous n'avez pas les bras largement ouverts pour toutes les nouvelles idées. Mais sans vous laisser aucunement effrayer. Parce qu'il y a des adversaires. Et c'est le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Et je peux vous dire, jamais les brebis et les loups ont été ensemble. Hein. On n'a pas fait un troupeau de loups, un troupeau de brebis, et on les a menés pâturer tranquillement dans et mis tous ensemble dans la bergerie. Si vous voulez perdre vos brebis, et bien vous n'avez qu'à les mettre avec les loups. Mais donc, on ne se laisse pas effrayer. Et puis, Paul il dit, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est les souffrances, pour la vérité, sont parfois inséparables de la vérité. Vous lisez, je suis en train de lire l'apologie de Socrate par Xénophone. Donc c'est très beau, hein, il y a celle de Platon Et donc, ils défendent Socrate comme étant un homme qui a. Et c'était quand même un homme exceptionnel qui a donné des idées très importantes, très intéressantes du point de vue de la sagesse et de la logique, du bon sens. On peut être que d'accord avec 90% de ce qu'a dit Socrate. Mais il a souffert pour la vérité, au moins la sienne. Mais nous souffrons pour l'évangile. C'est plus que la vérité. C'est la vérité, oui, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est la vie. C'est la vérité vivante. Après que je dise que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire, eh bien, Galilée a été persécuté à cause de ça. Il a peut-être même risqué sa vie. Mais on peut risquer sa vie pour une vérité. Mais pour la vérité, c'est autre chose. C'est une grâce. C'est le nous sommes il nous a fait il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il y a une opposition. Il faut mériter l'opposition. Si vous avez apporté la vérité et qu'il y a une opposition, alors vous avez mérité cette opposition. C'est le annoncer l'évangile apporte des conséquences. Et il y a des chrétiens qui ont risqué leur vie, leur réputation, leur bien-être, leur confort pour l'évangile. C'est une grâce. Il vous a été fait la grâce. Et vous savez, ce verset, je l'ai appris par cœur, il y a bien longtemps. Et je me le suis répété à chaque fois qu'il y avait des tensions et des querelles. Et que des gens venaient et étaient en contradiction avec moi et qu'ils me faisaient des problèmes. Je me disais, il m'a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. Et la plupart des gens regardent les souffrances et les tensions que nous subissons à cause de la vérité, à cause de l'évangile, comme étant un sujet déplaisant. On se dit, ça c'est quelque chose que je voudrais éviter. Mais Paul dit, c'est une grâce. Il vous a été fait la grâce. Non seulement vous avez part à l'évangile parce que vous êtes sauvés par le moyen de l'évangile, mais la grâce, vous avez une grâce supplémentaire qui vous est rajoutée. C'est que cet évangile, eh bien, vous souffrez pour lui et à cause de lui. Parce qu'il y a les ennemis de l'évangile. Et les ennemis de l'évangile ne désarme pas. Et il se renouvelle. Les siècles passent. Et il y a toujours de nouveaux ennemis de l'Évangile. Toujours des gens qui se lèvent et qui sont contre l'Évangile. Vous êtes étonnés. Les gens ne vous connaissent pas. Mais il y a une tension contre vous. Et je peux vous dire, je connais des gens là où j'habite, hein. Il y a quelqu'un qui ne m'aime pas. Et il me le manifeste. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Je l'ai rencontré deux fois. Vraiment. Après, il y a attention. Donc, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'évangile. Il y a quelque chose dans ma vie qui manifeste l'évangile. Parce que je suis l'ennemi de personne. Je cherche de querelle à personne. Je suis quelqu'un de paisible, de tranquille. Je l'étais quand j'étais inconverti et je le suis maintenant que je suis chrétien. C'est la plus forte raison. Mais c'est comme cela. Les gens, certaines personnes arrivent à savoir qu'il y a quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, ils ne l'aiment pas. Et ce quelque chose de différent dans nos vies, c'est Christ. C'est Christ qui est venu habiter en nous parce que un jour, nous l'avons accepté comme notre sauveur. Il est devenu non seulement notre sauveur, mais il est devenu notre Seigneur. Il est devenu celui qui règne dans nos vies. Il est devenu la personne la plus importante de nos vies. Et l'ennemi de Jésus-Christ est aussi notre ennemi à nous. Et il combat contre nous. Et il ne nous aime pas. Il a de la haine contre nous. Je me rappelle un jour, j'étais sur un quai de gare. J'attendais un train. C'était à Paris. Je pense que c'est la gare d'Austerlitz. Donc je ne faisais que passer. C'est tout. Personne ne me connaissait. Il y a un homme qui s'est approché et qui m'a insulté comme ce n'est pas possible. C'est, je me suis dit, mais et on voyait que cet homme était diabolique. Hein. Je me suis dit, cet homme sait qui je suis. Il ne connaît pas mon nom, il ne connaît pas ma personne, mais il sait que je suis disciple de Jésus-Christ. Au fond de lui-même, il le sait. Et peut-être l'homme lui-même ne le sait pas, mais l'esprit qu'il habite, oui, le sait. Et il s'est discerné un disciple de Jésus-Christ, de quelqu'un, de n'importe quelle autre personne qu'il y a dans ce monde, ou un disciple d'une religion quelconque. C'est, je peux vous dire, il vous a fait la grâce. Vous avez des tensions, vous en aurez, vous en avez, et c'est normal. C'est la grâce qui est liée à l'évangile. C'est, mais Paul a dérivé. Il est passé de la tension qu'il y a entre les frères et sœurs à la tension qu'il y a envers le monde. Mais cette tension vis-à-vis du monde, c'est une grâce. Et nous devons l'accepter comme quelque chose d'absolument lié à notre salut et à l'évangile, dont nous sommes devenus des disciples. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, de celui qui est notre sauveur. Et alors, et nous avons le privilège, la grâce immense d'être persécutés à cause de l'évangile. Et Paul dit, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Et ce qu'il leur dit en quelques mots, c'est que il y a le combat, la tension que vous vivez par rapport au monde et par rapport à l'évangile, mais il dit, mais ce combat-là, je le soutiens. Et si je suis à Rome, dans les chaînes, eh bien, c'est à cause de l'évangile. Et si César est au son tribunal, et s'il y a toutes les personnes juridiques de Rome appelées à me questionner, à me essayer de me condamner, eh bien, c'est à cause de l'évangile. Vous apprenez qu'il y a un combat que je soutiens. Vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul fait référence au passé où à Philippe il a été persécuté hein, pour l'évangile. Ils apprennent qu'il est à Rome persécuté pour l'évangile et dit vous avez fait la grâce. C'est vous croyez en l'évangile, vous êtes persécuté. Mais n'oubliez pas que d'autres aussi sont persécutés à cause de l'évangile. Vous n'êtes pas tout seul à être persécuté. C'est une grâce. C'est quelque chose. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Et notre vie est en désaccord avec ce monde. Et nous vivons sur un autre plan que le monde. Nous avons déjà, même si nous vivons dans un corps et nous vivons dans certaines contraintes de ce monde, nous vivons néanmoins une vie céleste. Une vie en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, où Dieu a la première place, où Dieu est le Seigneur de nos vies, où il remplit nos vies. C'est quelque chose de merveilleux et qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Dieu est notre Seigneur, il est notre roi, il est celui dont nous avons besoin, notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel nous souffrons à cause de l'Évangile et nous subissons des tensions. Et nous subissons des désavantages, et nous subissons des pressions, mais nous l'aimons plus que tout. Et il prend toute la place dans notre vie. Et notre responsabilité, c'est de lui donner notre vie, de lui dire, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, moi je donne ma vie pour toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite dans le ciel. Voilà. Nous allons prier.